Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission ciné des respects, et on commence en musique. Voilà, alors Cannes s'est terminé la semaine dernière, le tapis rouge a été rangé et le cinéma reprend son cours normal dans les salles parisiennes. On va vous parler dans cette émission de 4 films à l'affiche depuis mercredi dernier, à savoir Prometheus de Ridley Scott, Les Femmes du Bus 678 de Mohamed Diab, Woody Allen E Documentary de Robert B. Wide et Almania d'une réalisatrice allemande qui s'appelle Yasemin Sandereli. Alors, on commence tout de suite avec Les Femmes du Bus 678, un film égyptien qui sonne un peu comme un coup de poing puisque le réalisateur Mohamed Diab s'empare d'un sujet complètement tabou en Égypte, celui du harcèlement sexuel, et il se concentre sur 3 personnages de femmes qui sont de classe sociale et d'âge différents, qui sont Faïssa, Seba et Nelly, qui sont toutes les 3 confrontées à différentes formes de harcèlement et qui vont décider de réagir face à cela de manière peut-être plus ou moins violente. Alors, Pauline, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film ?
Donc j'ai trouvé ce film assez réussi finalement, puisque déjà je trouve qu'il s'abstient de tout misérabilisme et évite la tentation grande de tomber dans le cliché avec un thème aussi tabou et casse-gueule, pardonnez-moi le mot. Donc pour approfondir un peu l'histoire de ces 3 femmes, on a donc, comme Philippine tu l'as dit, un tableau en fait assez contrasté, puisqu'on a donc Faïssa qui est issue d'un milieu modeste, qui est une femme voilée, et qui tous les jours doit se rendre à son lieu de travail dans un bus bondé et se fait passer des mains malencontreusement dans le bus, enfin pas malencontreusement, intentionnellement bien sûr. Seba de son côté est une femme aisée dont l'embûche principale se passe le soir d'un match de football où elle subit les attouchements sexuels des fans, des supporters du football en délire. Et enfin Nelly, jeune fille fiancée à un jeune banquier qui voit un peu se figurer son avenir, elle va être choquée des harcèlements qu'elle subit dans sa boîte où elle est opératrice téléphonique et des paroles déplacées des clients, ainsi que d'un autre moment plus violent lorsqu'elle se fait attraper par le décolleté par un conducteur alors qu'elle marche dans la rue et tombe à terre. Donc après cette longue description, je dirais que ce film n'est pas misérabiliste puisqu'il présente ces 3 femmes sous un aspect combatif et assez violent, puisque en fait Faïssa va lancer le mouvement en décidant de planter un couteau dans plus ou moins les parties de ses agresseurs dans le bus, et c'est à partir de cet acte extrêmement violent que tout va se nouer. Et donc j'ai aimé ce côté extrêmement frontal en fait du film qui ne passe pas par 4 chemins pour exprimer son message, et ça se voit surtout en fait dans l'usage de la parole qui est fait à travers la voix des actrices, puisque au début du film tout tourne autour de cette parole qui doit être libérée ou non. Donc Faïssa se rend au groupe de parole de Seba qui apprend aux femmes comment se défendre, et celle-ci le pousse à lui dire mais as-tu été harcelée ou non, et on sent que c'est une sorte vraiment d'exorcisme de pouvoir dire oui j'ai été harcelée, même si ça ne semble pas même si ça semble anodin. Et cette parole qu'il faut libérer Et donc intéressante, puisque c'est dans cette parole-là aussi qu'on va trouver toutes les contradictions. Donc les hommes qui sont agressés par Faïssa et son couteau aiguisé vont subir l'interrogatoire d'un inspecteur de police qui va concentrer en fait tout l'humour du film en confrontant les personnes interrogées face à leurs contradictions, les contradictions de l'islam, des codes de la moralité, de la religion, en leur demandant mais pourquoi as-tu été agressé, est-ce que t'as pas fait du frotti-frotta dans le bus. Donc il y a vraiment ce côté d'expression et qui ne passe pas par 4 chemins dans la parole. Et en enfin, ce que je dirais qui était assez réussi, c'est que, bien sûr, le film ne tombe pas dans aucune forme de manichéisme, puisqu'il présente en fait un tableau donc, contrasté avec des femmes de différents milieux sociaux, et surtout les clivages qui peuvent se faire à l'intérieur d'un même mouvement et d'une même volonté. C'est-à-dire qu'un jour, Fessa va accuser ses amis et complices de provoquer finalement le désir sexuel et va leur en vouloir, enfin le désir sexuel de l'homme, et leur en vouloir de s'afficher librement sans voile et va leur reprocher presque et oui clairement leur vie confortable et très libérée. Donc j'ai bien aimé cet aspect de clivage, même quand dans le portrait de l'homme en fait qui est finalement très négatif dans un premier temps, on le voit vraiment sous son plus mauvais jour, l'homme qui souffre, notamment dans le fiancé de Seba, qui en fait ne l'a pas aidé le soir où elle s'est fait agresser par les fans du football, et il revient vers elle en souffrance. Le mari de Fessa, lui, explose de colère parce qu'elle se refuse à lui. Donc on a vraiment cette vision de cet homme-là, mais on a le jeune donc fiancé de Nelly qui lui contrebalance en fait un peu parce qu'il a cet aspect-là, parce que certes il apparaît comme quelqu'un qui est un peu acheté par la société parce qu'il est jeune banquier et c'est pas ce qui lui plaît vraiment, mais il va plus ou moins changer d'avis et du coup j'ai aimé ces nuances qui sont apportées dans le tableau par ces personnages assez différents en fait.
Agathe ? Pour ajouter aux nuances aussi, j'ai trouvé très intéressant le personnage de l'enquêteur, justement, qui au début reste un peu sur un thème assez machiste et qui finalement, dans son histoire personnelle et par rapport à l'enquête, va changer de point de vue et va beaucoup les aider dans leur combat sans forcément le vouloir, avec un visage un peu paternel. J'ai trouvé son personnage très intéressant. Ensuite, j'ai trouvé que c'était un film qui était très riche, que ça soit en faits, en émotions, etc. Et que c'était très bien monté, très bien amené. On a toute une première partie du film qui, justement, amène à la rencontre des trois femmes. Et sur une scène, en fait, d'un bus qui rencontre une voiture avec différents points de vue. Et ça, c'était très intéressant.
Oui, c'est vrai qu'on a, en fait, on a plusieurs fois des retours en arrière. Ouais. C'est-à-dire que dans la première partie, on suit successivement chacune de ces trois femmes en s'arrêtant justement à un carrefour très précis. Et qu'à la fin de ces trois parcours différents, le réalisateur fait un plan d'ensemble et élargit son plan pour montrer justement la rencontre de ces trois femmes qu'on a chacune laissé dans ce carrefour avec un mode de locomotion différent. Donc c'est vrai que oui, cette première partie est vraiment réussie.
Ouais, c'est vraiment bien monté. Ça dure peut-être la moitié du film, non, je dirais une heure, où elles sont présentées les unes après les autres. Et le flashback, ça aurait pu être assez lourd. On aurait pu se perdre. Et non, c'est très bien fait, c'est bien orchestré. Et ça amène aussi une tension permanente dans le film, que ça soit après quand ça rentre dans l'enquête, quand il cherche à trouver justement Fessa qui agresse les hommes, qui fait un scandale médiatique parce qu'elle agresse les hommes dans le bus. Cette enquête, ça donne aussi un bon dynamisme au film qui est assez long quand même. Quand on en sort, je trouve que c'est lourd, c'est long, et en même temps ça perd jamais de rythme, c'est toujours très intéressant
et très bien joué. Camille ?
Oui, c'est d'autant plus intéressant que c'est inspiré des faits qui ont vraiment eu lieu en 2008. C'est l'affaire Noah Rushdie, qui a été le premier procès de harcèlement sexuel. Donc le harcèlement sexuel en tant que tel n'avait pas lieu avant en Égypte, il n'existait pas. Et on s'aperçoit donc vraiment grâce à ce film qu'à partir des mots, les faits prennent tout leur valeur. Et ça revient à la question intéressante du viol et de l'agresseur qui dit souvent « tant que la plainte n'a pas été portée, le viol n'a pas eu lieu ». Donc, et c'est ça aussi que le film arrive à bien comprendre, à bien dire, c'est le fait que le viol n'est pas une question simple, il a le plus souvent lieu dans une dimension conjugale dans le couple. C'est le cas pour Fessa, qui se refuse à son mari. Et là, on voit aussi tout le problème du voile qui, en fait, n'est pas imposé par son mari, mais par elle-même, qui commence à avoir un espèce de dégoût de tout ce qui se rapporte au sexe, parce qu'elle est constamment vue comme un objet, comme un objet sexuel par son mari lui-même, qui finit par lui dire qu'il l'a épousée pour cette raison. Donc, de ce point de vue-là, c'est en effet assez intéressant. Et c'est peut-être aussi un reproche que je ferais au film, c'est qu'il est quand même pas manichéen, je suis assez d'accord avec vous de ce point de vue, mais le portrait des hommes est extrêmement, extrêmement négatif. Et ça participe au côté que j'ai un peu moins apprécié aussi, un peu théâtral, parce que dans la mesure où il rapporte des faits réels, où il veut bien les expliciter un peu de manière didactique, c'est presque un peu un documentaire d'information parfois, et ça se ressent dans le jeu un peu théâtral où le personnage masculin en général est épouvantable, absolument épouvantable, et il se rattrape à peine à la fin, même les gentils deviennent très très méchants dès qu'on se rapporte au sexe.
Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que t'as dit, Pauline, sur ton analyse des figures masculines où il y en aurait une qui rachèterait les deux autres. Je trouve que même ce personnage du jeune banquier qui certes au début apparaît comme sympathique, compatissant, qui dit à sa fiancée qu'il va la soutenir, au final il est tellement engoncé dans le poids des traditions, dans le poids du candidat raton et dans le poids de la famille, qui a une entité très importante dans ce film, qu'il finit par ne plus très bien savoir ce qu'il doit faire, s'il doit suivre, c'est peut-être ce que je vais dire est peut-être un peu trop dualiste, mais suivre ses sentiments pour sa future femme ou suivre la morale, la bien-pensance. Et du coup je trouve que dans ce film l'homme soit est intrinsèquement mauvais, comme c'est la figure du harceleur, soit est complètement conditionné par son environnement et incapable de s'en extraire, ce que font en l'occurrence les femmes du film.
Oui, donc c'est très intéressant, d'autant plus que le film a été très difficilement mené, puisqu'il contre tous les tabous, il a dû braver beaucoup d'obstacles avant d'être enfin porté au cinéma. Mais donc ça a une dimension... La psychologie est intéressante et parfois elle manque un peu d'être approfondie, dans la mesure où ça c'est des problèmes réels qui donnent pas de vérité exclusive qu'on saurait résumer dans un film, et ça se ressent d'autant plus ici. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une révolte, un ras-le-bol des femmes qui est latent et qui est régressif,
qui est vraiment frontal, en fait.
depuis quelques années, qui est quand même dans un état régressif, et là il est bien exprimé dans la révolte tout d'un coup.
J'ai beaucoup aimé la scène aussi où Seba se fait toucher les fesses par un petit garçon et qui le poursuit et qui a une explosion de haine en elle et qui le poursuit pour le frapper presque, et qui demande à ce qu'on le laisse parce qu'elle le veut. Et je trouve que cette exploitation de l'explosion de violence féminine qui n'est pas courante finalement à l'écran était vachement intéressante, et surtout que on l'a pas dit, mais l'image est quand même très belle, et il y a un jeu de caméra qui est vraiment très bien rendu, je trouve,
dans le souk
et dans le mouvement, en fait.
Donc on perçoit tout à fait que ces femmes sont constamment sur le qui-vive, constamment en train de raser les murs et aux aguets, parce qu'elles ont vraiment peur en permanence.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le face-à-face de ces trois femmes, ça mène à se poser des questions sur quelle est la solution, parce que ça tourne beaucoup autour de leur impuissance. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas porter plainte, sinon leur famille leur demande d'enlever la plainte. Et y a un affrontement justement entre les trois quand Faïssa reproche leur mode de vie trop moderne des autres.
Oui, c'est bien ce que je disais, c'est ce clivage qui est montré, ouais. En fait, c'est qui montre qu'il n'y a pas du tout de consensus, en fait.
Mais à ce moment-là, Seba dit quelque chose de très juste à Faïssa. Elle lui dit... suite à un autre face-à-face où elle se demande si les hommes méritent vraiment ce traitement, si en réponse à ces attouchements, est-ce qu'ils méritent de se faire agresser en retour. Ce qui est intéressant, c'est que Seba lui demande si elle n'a aucune culpabilité, et il y a le côté quelle est la réelle solution. Est-ce que finalement agresser des hommes dans un bus, ça peut mener à faire porter leur parole, et est-ce que c'est bon pour elle aussi?
Oui, encore une fois, il y a un renversement, parce qu'au début, quand Seba demande pour la première fois à Faïssa qu'est-ce qu'elle a éprouvé en enfonçant son couteau dans l'homme qui l'a agressé, elle lui a dit je me sentais bien, c'était ma vengeance. Et à la fin du film, donc il y a quand même une sorte de renversement qui ajoute une nouvelle nuance et qui montre qu'en fait rien n'est gagné, enfin rien ne peut être clairement exprimé. Et c'est vraiment ce côté des particularités de chacune des situations de ces femmes et la rencontre des trois et toutes les contradictions qui en découlent qui est intéressante, en fait, même si ça n'apporte pas de réelles réponses.
Moi, je suis dans l'ensemble d'accord avec tout ce que vous avez dit. Enfin, je trouve le film vraiment très intéressant, et c'est vrai qu'il a le mérite de son sujet, on va pas le nier. Enfin, s'attaquer à un tel sujet dans telles conditions, le film a été fait bien avant les révolutions successives, c'est quelque chose qui est très fort, et c'est un vrai acte de cinéma, il me semble. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec Camille sur le fait que la fiction pêche un peu. Je trouve que justement la fiction est plus forte que le documentaire, Premièrement parce que le réalisateur fait très attention à ce qui est une réelle exhaustivité, et ça on l'a dit avec les différents milieux desquels sont issues les trois femmes. On a vraiment la classe populaire, la classe aisée, et entre les deux une classe moyenne qui pourrait incarner l'espoir, mais qui au final, enfin on se rend compte qu'au final les différentes classes ont les mêmes problèmes. Et c'est vrai que ce film, les interprétations a posteriori sont toujours un peu hasardeuses, mais ce film est une belle figuration des révolutions qui au final se sont passées. À la fois justement dans cette idée qu'il y a des problèmes communs à toutes les couches de la population, et en même temps, comme vous l'avez dit, avec ces confrontations qui interviennent à la fin, qu'il ne peut pas y avoir de consensus, il ne peut pas y avoir d'unité, et qu'au final il y a toujours des problèmes internes à ce qu'on pourrait appeler une coalition qui vont ressurgir et faire que... qu'on va avoir les problèmes qu'on voit aujourd'hui dans les pays arabes qui se sont soulevés. Par ailleurs, ce que je trouve très intéressant avec la fiction, c'est que justement, je pense que ça empêche de se complaire dans le misérabilisme. Je pense qu'un documentaire, on n'a pas dans la réalité des enfin, je ne sais pas si on en a, mais de manière pas aussi spectaculaire, on n'a pas des femmes qui décident de faire quelque chose, de faire une action violente, de prendre le dessus. Et donc, il me semble qu'un documentaire sur ce sujet aurait dû se limiter au harcèlement, et pas à la volonté de s'en sortir, et pas à la volonté de retourner les règles de la domination masculine. Donc je pense que la fiction permet de sortir du misérabilisme, et en même temps, là où elle trouve ses limites, c'est que presque... J'ai l'impression qu'elle nous amène, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de première fin qui sonne un peu comme une tragédie antique, où on a un destin qui broie ces trois femmes, alors que pendant tout le film elles se sont élevées. On a à partir d'un moment un renversement total qui fait qu'elles sont de plus en plus à terre au fur et à mesure qu'elles se déchirent entre elles trois. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a comme une seconde fin qui rebondit et qui laisse le film sur une note d'espoir, je trouve que c'est totalement surfait. Et c'est vrai que le fait que la fiction nous amène en quelque sorte, pas à vouloir, mais à trouver ça plus juste, le fait que ces femmes-là soient à terre et non pas qu'elles puissent se relever, c'est une limite qui est quand même extrêmement problématique quand on parle d'un sujet comme celui-là, qui est un sujet réel, qui est un énorme problème. Et je ne pense pas qu'on puisse réellement souhaiter que les femmes victimes de harcèlement sexuel ne s'en sortent pas. Mais je trouve que le réalisateur ne parvient pas tout le temps à mettre son spectateur en communion avec ses héroïnes. Alors oui, c'est une preuve de non-manichéisme envers ces personnages féminins, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans la fin, et qui fait qu'on sort dessus avec une sorte de gêne, parce que, voilà, en même temps, on a envie que ces femmes puissent en sortir, mais qu'on voit comme seule solution... j'ai envie de dire de loin cette idée de porter plainte et de gagner des procès, alors que finalement, et ce que nous dit le réalisateur, c'est qu'il faut se placer dans un angle totalement différent, et que cette solution qui est apparemment la seule bonne n'est pas forcément celle qui doit être envisagée. Par ailleurs, ce que je trouve extrêmement réussi dans ce film, c'est le choix des trois comédiennes qui sont absolument formidables et qui donnent vraiment corps, parce que le film est très théorique, c'est-à-dire que même s'il prend un sujet inspiré de faits réels, il se place dans une sphère qui est plus métaphorique, qui est plus théorique, et le choix de ces trois femmes donne un vrai corps, et un corps à chaque fois différent. Enfin, physiquement, les trois actrices sont extrêmement différentes, et c'est une bonne idée, je pense, d'avoir véritablement incarné à la fois les différences et à la fois une même communion, qui est, je pense, le regard que ces trois femmes ont, qui est un regard extrêmement perçant. Et je trouve que là où le jeu des comédiennes s'exprime particulièrement bien, c'est précisément dans cette façon qu'elles ont de regarder avec une forme de haine, de rage, de colère, à la fois ce qui leur arrive, à la fois ce qu'elles deviennent sous le fait des agressions, et à la fois la situation dans laquelle les femmes de leur pays sont plongées. Voilà, on va conclure ces longues critiques sur Les Femmes du bus 678, un film donc qu'on vous recommande, vous l'aurez compris. Et on va passer au deuxième film de l'émission, le Prometheus de Ridley Scott, donc présenté comme un préquel d'Alien, et dont on vous passe une partie de la bande-annonce.
Oh. You're smiling. You gotta be careful.
I think they want us These are images of archaeological digs all over the earth. Ancient civilizations that shared no contact with one another. And yet, same pictogram, every last one. Mesopotamian, Aztec.
Voilà, c'était une partie de la bande-annonce de Prometheus de Ridley Scott, avec un casting absolument luxueux qui comporte Michael Fassbender, Charlize Theron ou encore Noomi Rapace, et qui donc raconte l'histoire de scientifiques qui partent à la recherche des origines de l'homme. Et c'est Camille qui va vous dire ce qu'elle a pensé de ce film.
Un film que j'ai trouvé aussi informe que les créatures qu'il met en scène. Il est absolument saisissant d'horreur et de stupidité. Car tu n'as pas dit en présentant le film qu'il se retrouve, nos héros se retrouvent en 2080. Nos héros.
Oui, enfin, la liaison est peut-être appropriée dans ce cas-là, non?
Nos héros. Bref, se retrouvent en 2093.
Ouais.
Dans une autre galaxie, n'est-ce pas, après avoir été endormi 2 ans dans un vaisseau spatial.
Alors, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on l'apprend jamais.
Oui, non, on ne sait pas grand-chose en fait de ce qui se passe dans le film. La chose la plus marquante et celle qu'il faut dire en premier lieu, je pense, c'est que c'est absolument dégoûtant. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, à moins que vous envisagiez de faire un régime parce que ça coupe l'appétit. Ça m'a scandalisé, ce film. Bon, je passe outre le fait que les effets spéciaux sont certainement très élaborés, que les paysages lunaires sont absolument fascinants et que les costumes sont les mêmes que ceux de Star Trek. Donc, si on aime Star Trek, on est assez heureux. Sans ça, c'est de la psychologie de base. Les personnages sont creux. Les rapports entre eux sont à la fois confus et non exploités. On sent que chaque fois, il y a un petit problème freudien et parfois, il se laisse échapper, mais on ne comprend pas trop vraiment ce qui se passe derrière tout ça, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement l'enjeu du film. Tout a été un peu abandonné en route. Et les réactions, qui auraient pu être plus approfondies devant cette recherche des racines de l'humanité, de l'espace, des êtres primitifs, les réactions sont absolument décevantes. Il pose le pied sur une nouvelle planète, presque en faisant la gueule. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, l'équipage est ainsi composé. On a l'impression qu'ils ont été pris complètement au hasard. On a un Chinois qui ne sert à rien, qui est aux commandes. Il doit être le scientifique de base. Le punk révolté qui est là pour gagner de l'argent et qui est absolument figuratif. On sait déjà que c'est le premier qui va mourir. Et voilà, donc l'unique but doit être les effets spéciaux. C'est un blockbuster qui s'assume et qui, j'espère, n'aura pas grand succès, le succès qu'il mérite. Et j'espère au moins que les fanatiques d'Alien y trouveront leur compte. Je pense que c'est assez dans la lignée.
Il faut dire qu'il était quand même attendu comme le Messie et que des rumeurs l'annonçaient à Cannes. Pourtant, Pauline, toi aussi, tu as frémi, voire crié d'horreur devant ce film de Ridley Scott.
Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi aussi, je m'étais laissée gagner par l'enthousiasme et dès les premiers plans, en fait, j'étais assez enthousiaste. C'est-à-dire que, en plus, je l'ai vu en 3D, donc forcément, ça aide. On voit, dès les premiers plans, on voit une espèce de nature assez sublime, il faut le dire. On a toute une force de l'eau, on a des cascades, des hauteurs vertigineuses dans les montagnes. Donc, il y a quelque chose d'assez vertigineux et qui peut renvoyer à une sorte de première réflexion métaphorique, pas trop explicite, mais d'une sorte de réflexion sur la création, sur le sublime, que sais-je. Je me suis dit, ah, peut-être. Et en fait, dans ces très beaux premiers plans, mais vraiment les premières secondes, arrive l'extraterrestre, donc terrible, affreux, une espèce de bête de marbre à la peau bleuâtre, enfin pâle, et qui vient comme ça et qui meurt foudroyé après avoir bu une potion et qui meurt comme ça dans l'eau. Voilà, c'est une piste comme bien d'autres qui ne sera pas approfondi, puisqu'on ignore, Camille, dis-moi, enfin on ignore jusqu'à la fin qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
Et on ignore tout, on est
dans
l'ignorance.
Et donc peut-être. Voilà, ce qui aurait pu être peut-être une réflexion sur la création humaine, donc avec cette expédition qui part à la recherche de ses origines et qui se met en tête que ce sont les extraterrestres qui ont créé l'homme et qu'ils veulent rencontrer ses créateurs, donc vraiment le côté brodé autour du mythe du Prométhéeus. Avec l'homme qui essaie de chercher, enfin de s'élever au niveau de potentiel dieu ou créature supérieure. Mais tout ce qui aurait pu être exploité de ce côté-là s'effondre, puisque évidemment c'est un blockbuster américain qui se ressent de bout en bout. Donc il n'y a aucune réflexion, il n'y a qu'un message subliminal qui est martelé, c'est-à-dire qu'on va sauver, tout le monde va mourir, on va sauver uniquement celle qui a la foi en Dieu, évidemment. Tous les personnages un peu borderline, un peu qui ont cru justement pouvoir se mesurer à la hauteur du message suprême divin de la création de la Terre, toute personne qui pourrait se mesurer ou tenter d'élucider ce problème se trouve anéantie. Donc voilà, il y a quelque chose de très puritain au final et qui se cache certes sous un vernis assez extraordinaire. Je suis d'accord, les effets spéciaux sont bien réussis, il y a quelques trouvailles visuelles intéressantes. Je veux dire, l'image est assez choquante, assez palpitante en fait. Et d'ailleurs, ça passe pas mal par les aliens, enfin les martiens, enfin, je sais pas comment ils s'appellent, en eux-mêmes, parce que on a ces sortes d'énormes serpents ou tentaculaires qui ressemblent un peu à des organes génitaux visqueux d'ailleurs, mais bon, c'est affreux en soi. Il y a quelque chose, il y a une viscosité qui est poussée mais au dernier degré.
Et il y a toujours un alien qui sort de l'alien et ainsi de suite, c'est comme les poupées
russes. Voilà, il se démultiplie. Alors peut-être encore une réflexion sur la création et le darwinisme, l'évolution de l'espèce ou je ne sais quoi, mais tout ça reste vraiment très en surface et vraiment, vraiment très limité. Et une dernière chose, le seul à sauver dans ce film, c'est Michael Fassbender qui joue le rôle d'un robot en fait, et qui a vraiment ce côté très 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 froid, enfin pas très froid mais comment dire, peu expressif, un peu automatisé, bien que très perfectionné pour un robot, et qui va essayer en fait de se construire une personnalité en regardant des vieux films par exemple. Donc ça c'est une des premières scènes qui je trouve est intéressante et qui aurait gagné à être exploitée sur le thème un peu du cyborg, de l'homme face aux nouvelles technologies. Et d'ailleurs le personnage de Michael Fassbender va essayer de se retourner également contre son créateur qui est l'homme, et de montrer que l'homme à ses limites et que lui-même peut reprendre le dessus sur lui. Mais encore une fois, ce n'est pas exploité, c'est simplement suggéré. Il essaie de tuer ou de réduire en extraterrestre un des personnages de l'équipe, on n'apprendra jamais pourquoi. Donc c'est dommage parce qu'il y avait de bons éléments et une image extraordinaire, mais on reste dans le message psychologie à deux balles, puritain, etc., américain quoi.
Voilà, c'était donc les avis unanimement négatifs sur le Prometheus de Ridley Scott, qui je pense pourtant va faire un carton en salle. On passe à un film présenté cette année à Cannes dans la section Cannes Classique, qui est un documentaire sur Woody Allen intitulé sobrement Woody Allen A Documentary de Robert B. Wide, et on vous passe une partie de la bande-annonce.
This is my collection. There's all kinds of scraps and things that are written on hotel things. Every time I start a project, and I sit here like this, and I look at, don't like that.
Donc un des premiers, je pense, documentaires sur le cinéaste américain Woody Allen, de ses débuts de comique à Brooklyn jusqu'au tapis rouge de Cannes, on y revient toujours, en passant par ses premiers films, son amour avec Diane Keaton, ses femmes, ses premiers Oscars, et ses techniques d'écriture, et bien d'autres choses encore. Un documentaire extrêmement complet, que j'ai pour ma part vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vrai que je pense que c'est déjà quelque chose, enfin c'est déjà un film novateur simplement par le fait de s'intéresser à une personnalité, Woody Allen, qui parle peu, qui a été peu mise en scène et qui, ce qu'on sache, n'est pas encore mort. Donc c'est vraiment un film passionnant parce que on savait très peu de choses sur la façon qu'avait Woody Allen de travailler, et je trouve qu'il y a toute une partie passionnante sur justement, il explique qu'il écrit avec une vieille machine à écrire et que pour faire le réalisateur en voix off lui demande comment il fait, puisque la principale qualité du traitement de texte c'est de pouvoir faire copier-coller, et donc il montre ses ciseaux et ses agrafes qui lui permettent de copier-coller. Une trouvaille qui est assez fantastique et qui est vraiment à l'image de ce réalisateur, qui est quelqu'un de totalement fantasque et qui en même temps voilà, un charme un peu passé, quelque chose de l'ordre de l'ancien temps, que ce documentaire retranscrit très bien. Et je trouve même que
dans sa linéarité, parce que c'est un film assez classique. Donc on l'a dit, il part de l'enfance de Woody Allen à Brooklyn, et puis on suit la progression, donc ses premières blagues dans les journaux locaux, ses premiers one man show, ensuite ses premiers films, et puis peu à peu la reconnaissance jusqu'au grand réalisateur qu'on connaît aujourd'hui. Et cette linéarité me semble apporter quelque chose, dans la mesure où une des rares choses qu'on sait sur Woody Allen, c'est son rapport à la mort. Il avait déclaré il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus à quelle année, à Cannes, lorsqu'il présentait « Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu », il avait déclaré « La mort, j'ai toujours le même rapport, je suis farouchement contre ». Et c'est vrai que Woody Allen, dans ses films et dans ses rares interviews, n'a de cesse de parler de ce thème de la mort, dont indéniablement il se rapproche. Et le fait justement que le film soit linéaire et effectue une progression dans le temps, fait prendre conscience de cette mortalité d'un grand réalisateur qu'on pourrait croire éternel, parce que par ses films il a touché à énormément de choses, il a une capacité de renouvellement qui est incroyable, et puis dans ses films eux-mêmes il visite toutes les époques. Si on ne prend que uniquement l'exemple de son dernier, qui n'est pas le plus réussi, mais Midnight in Paris, qui justement se balade dans les époques, dans le Paris des années 20 au Paris des années 2010. C'est vrai que Woody Allen a quelque chose d'intemporel, et c'est ce qui fait tout le charme de son cinéma et aussi le charme de sa personnalité. Et là, le fait que le réalisateur le réinscrive vraiment dans différentes époques, parce que le film aussi est assez séquencé, c'est vrai qu'on a d'abord l'enfance, puis les débuts, puis la reconnaissance, il réinscrit vraiment Woody Allen dans une temporalité, et en quelque sorte, à la fois on sent que c'est l'œuvre d'un admirateur de Woody Allen, mais en même temps il le ramène à son niveau d'homme. Et c'est vrai que on peut parfois avoir l'image d'un Woody Allen qui se prend parfois pour peut-être plus grand qu'il ne l'est, et là je trouve que en acceptant en ayant accordé des interviews à des entretiens à ce réalisateur pour le documentaire, il fait œuvre d'humilité, et c'est une facette qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, et qui est aussi très intéressante justement de voir ce Woody Allen là qui est aujourd'hui un monsieur pas si jeune, qui déambule dans les rues de Brooklyn de manière totalement simple, qui passe des heures devant sa table de montage. Donc c'est un film qui à la fois rend hommage à un grand réalisateur et qui montre que c'est un homme comme tout le monde, avec simplement des idées de génie. Donc je trouve que c'est vraiment un film très instructif, qui certes n'a pas énormément de qualité cinématographique, mais qui en même temps réussit bien à retranscrire le charme de Woody Allen et de ses films, et aussi également de ses femmes, puisque les actrices et égérie de Woody Allen sont extrêmement présentes. On commence avec Diane Keaton pour arriver aujourd'hui à Scarlett Johansson, et c'est aussi à ça que le réalisateur rend hommage, à cette capacité qu'a Woody Allen de propulser des petites inconnues sur le devant de la scène. On voit la remise du premier Oscar à Diane Keaton, on voit Scarlett Johansson qui, grâce au film de Woody Allen, s'est affirmée comme une vraie actrice. Donc je pense que ce film est très intéressant, qu'on soit totalement fan ou qu'on trouve simplement charmant les films de Woody Allen, et c'est un moment vraiment sympathique à passer, en plus d'avoir une réelle capacité informative. Agathe.
Donc moi aussi j'ai trouvé ça très intéressant comme documentaire, ça m'a beaucoup plu. Par contre j'ai trouvé donc le réalisateur, quelque part n'y mettait pas beaucoup du sien, c'est-à-dire qu'il a beaucoup utilisé le personnage de Woody Allen. Les séquences où on voit Woody Allen, la séquence avec la machine à écrire est géniale. J'ai beaucoup ri parce que c'est un personnage qui est fascinant en quelque sorte, enfin que je trouve fascinant. Mais le montage du documentaire est assez facile, assez simple. La première partie est très intéressante parce qu'elle revient sur une partie de l'histoire de Woody Allen que, notamment à notre âge, on n'a pas beaucoup vu. Tout ce qui est le stand-up, les petites séquences filmées, très intéressant, très bien trouvé. Par contre, il n'insiste pas beaucoup sur justement le passage de films comme Manhattan à beaucoup plus loin, Match Point, Vicky Cristina Barcelona. On voit pas très bien la transition qui s'est faite dans l'histoire du cinéaste, qui l'amène justement à changer autant de registres, parce que Match Point, c'est plus du tout la fantaisie, quelque part, cet humour un peu sensible qu'a Woody Allen. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant à regarder.
Juste sur ce changement, on a une seule piste qui, c'est vrai, je te l'accorde, aurait pu être plus approfondie, qui est lorsqu'un des critiques interrogé par le réalisateur explique qu'il avait un peu perdu Woody Allen de vue et qu'un jour, dans un cinéma, il voit une bande-annonce d'un thriller avec un casting de rêve qui le fascine, et puis à la fin, il voit écrit et réalisé par Woody Allen, et là, il se dit, tiens, on a retrouvé un grand réalisateur. Mais c'est vrai qu'on a peu, et que Matchpoint est peut-être le dernier film sur lequel le réalisateur du documentaire s'attarde vraiment, et alors que les derniers, même en ne remontant pas jusqu'à Midnight in Paris, qui peut être trop récent, Scoop ou encore Vicky Cristina Barcelona sont très peu évoqués, et c'est un peu dommage parce que oui, comme tu le dis, on a plusieurs parties dans l'œuvre de Woody Allen, et ces derniers films sont vraiment une partie autonome et qui aurait pu être passionnante.
Et on s'attarde beaucoup sur les années 70, les années 70 durent 100 ans dans le film, quoi, donc c'est assez déséquilibré de ce côté-là. Donc voilà, tout ce qui est les séquences aussi, les entretiens. Donc ce que je disais au début, c'est très intéressant parce que la forme est assez hétérogène. On passe d'articles de journaux à petites séquences de stand-up, entretiens, etc. Sur la fin, c'est plus souvent des entretiens avec des réalisateurs, souvent assez dithyrambiques. On va même Martin Scorsese. Dans les décors. Enfin, moi, c'est ce qui m'a dérangée, c'est d'aller voir ça au cinéma. En gros, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je serais tombée dessus à la télé, ça m'aurait pas dérangée. C'est le manque de recherche cinématographique qui a un peu pêché dans ce documentaire.
Ouais, ils ont un peu profité de la notoriété du personnage actuellement pour essayer d'amener les gens dans les salles.
Mais c'est vrai qu'il est... là où tu as vraiment raison, c'est l'humilité qu'on trouve de Woody Allen dans ce documentaire, quand il passe dans les rues de Brooklyn, qu'il passe devant son ancienne école, qu'il raconte, il fait pas du tout prétentieux.
Oui, il y a une désacralisation du personnage qui le rend tellement sympathique, et encore plus qu'il ne l'est, parce que c'est vrai qu'il aurait peut-être tendance à agacer en se mettant en scène constamment, en assénant systématiquement ses névroses, son côté décalé, mais sans le vouloir, c'est toujours dans l'autodérision, mais l'autodérision peut aussi prendre des allures de narcissisme, et là on le voit pas en narcissique, on le voit en gentil petit bonhomme avec un bob kaki, je tiens à le préciser, je m'en souviendrai.
Oui, et puis les gens dans la rue on voit les gens qui montent du doigt et qui disent oh tiens c'est Woody Allen.
Oui, puis il monte son ancien lycée, l'endroit où il a failli mourir, le cinéma où il emballait les filles, il y a ce côté là très sympa.
Il raconte même une petite histoire sans aucun brin d'humour quand il a failli se faire écraser par une voiture, petite séquence assez... Ça m'a beaucoup surprise.
Pauline, toi, tu as beaucoup aimé le film.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vais essayer de résumer un peu ce que vous avez dit. Certes, on aurait pu lui reprocher cette linéarité dont vous parlez un peu. Mais moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est cette linéarité. Et en fait, Aga, je rebondirais sur ce que tu dis en disant que peut-être les entretiens, etc., ça faisait un peu une sorte de surenchère ou d'accumulation. Peut-être qu'on peut le voir comme ça, mais moi, au contraire, je l'ai vu comme une forme de... Enfin, une vraie cohérence, en fait. Parce que j'ai trouvé ces entretiens vraiment intelligents et vraiment utiles et très bien sélectionnés. Parce, déjà, par la richesse des sources et des intervenants, parce qu'on a certes cette centralité de Woody Allen, mais on a Diane Keaton, Marielle Hemingway, les producteurs, les critiques de cinéma.
La sœur de Woody Allen.
Je ne me rappelais plus de ça. On a vraiment un éventail très intéressant et qui amène un peu à cette volonté. Certes, ça reste une volonté, mais d'exhaustivité. Elle n'est peut-être pas totalement aboutie. Il y a certaines critiques qui lui reprochent d'avoir oublié quelques petits bijoux des films de Woody Allen, mais on avait quand même cette volonté, certes chronologique, certes linéaire, mais de montrer quelque chose de complet sur Woody Allen, en dressant, vous l'avez dit, toute sa jeunesse. Et donc c'est vraiment cette diversité des sources qui était vraiment intéressante, avec les séquences de sketch, encore une fois. Donc cette première partie marchait vraiment bien. Mais pour défendre la suite du film, où c'est plus une accumulation d'entretiens, je dirais en fait que cette forme-là était quand même intéressante parce que les entretiens avaient une cohérence. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on a quand même beaucoup de séquences de films, de tous les films de Woody Allen, qui sont très bien choisis et qui répondent en fait au dire des personnes interrogées. Et donc ça, je pense que c'est pas forcément un exercice hyper facile. Et je trouvais qu'il y avait une vraie cohérence entre les dires des personnages et les séquences choisies. Il y avait vraiment un écho entre la vie de Woody Allen et ce qui ressortait dans ses films, et pas seulement les choses positives. Donc moi, j'ai aussi relevé tous les déboires de sa vie, notamment le scandale quand il a divorcé de Mia Farrow, parce qu'il a une relation avec leur fille adoptive, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, donc un truc bien glauque. Et en fait, on a ce témoignage-là, tout ce qui entoure ça, sans complaisance, hein, vraiment dans le témoignage simple, enfin frontal, enfin sincère, de Mia Farrow, de Woody Allen, donc voilà, sans embâge. Et en parallèle, on a le film qui était tourné à ce moment-là, qui s'appelle Mari et femme, et qui était tourné donc exactement la même période, mais avant même que se passe le scandale, et où on voit Woody Allen et Mia Farrow en couple dans ce film, qui sont en prise avec leurs doutes, avec leurs problèmes conjugaux. Et donc il y a vraiment une résonance comme ça entre les films et entre les entretiens qui forment une vraie cohérence à mon sens. Et enfin la dernière chose, bah, vous l'avez dit évidemment, je reprendrai les mots en fait de Robert B. Wise, le réalisateur, qui a dit que comme tu l'as dit Philippine, l'avantage c'est que Woody Allen est vivant et qu'on peut en faire la colonne vertébrale du film. J'aime beaucoup cette formule parce que c'est vrai que tout gravite autour de lui, mais sans en avoir l'air en même temps. Et on va un peu, il parvient vraiment à disséquer ce parcours atypique et extraordinaire en gardant cette centralité de Woody Allen, en gardant cette proximité là, en le faisant, en le suivant un peu partout dans la rue, donc avec son fameux Bob, voilà, chez lui, avec sa machine à écrire. Et donc il y a vraiment cette connivence là qui est créée avec le réalisateur, qui était extrêmement réussi et qui signe là un très beau documentaire. Et effectivement, c'est le premier documentaire vraiment abouti sur Woody Allen, et parce qu'il n'a jamais voulu en faire un, considérant qu'il n'en valait pas la peine. Et cette composante-là d'autodérision est bien présente dans le film également, donc c'est très fidèle au personnage.
Alors le dernier film du programme du jour, c'est Almania, un film allemand de Yasemin Sondereli, qui raconte l'histoire d'une communauté, d'une famille turque immigrée de troisième génération, qui va décider de revenir sur son histoire à l'occasion d'un voyage sur la terre natale en Turquie, puisque le grand-père, donc la personne qui a la première immigrée, a acheté une maison en Turquie et décide d'emmener toute sa famille pour la reconstruire.
Hier, Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein.
Ja, hab ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein.
Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen.
Echt? Die essen Menschen?
Ich werde euch alle mitnehmen nach Almania.
Alors Almania, il faut savoir que c'est un film qui fait un carton au box-office allemand et qui est comparé par certains au succès de Bienvenue chez les Ch'tis en France, et qui donc s'intéresse à la question de l'intégration de la communauté turque en Allemagne et du rapport au passé, du rapport à la culture d'origine et de la façon dont une famille revient sur un passé chargé de voyages et d'épreuves. Agathe, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce film ?
Alors j'ai trouvé que c'était un film assez bon public, c'est-à-dire très agréable à regarder, mais qui va pas vraiment en profondeur, même sur la question de l'intégration des Turcs en Allemagne. C'est, tu l'as comparé à Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas mal dans la caricature, ça se ressent aussi dans les costumes, notamment dans le format, c'est un peu édulcoré, l'image est très saturée. Il faut aussi rappeler que c'est sous la forme d'un récit, en fait, c'est la cousine qui raconte à son petit cousin qui est tout jeune et qui se pose beaucoup de questions justement sur sa nationalité, est-ce qu'il est allemand, est-ce qu'il est turc, et elle lui raconte l'histoire de ses grands-parents qui sont amenés à partir en Allemagne. Et cette forme du récit racontée par une actrice que j'ai pas trouvée très intéressante, non, j'ai pas... peut devenir un peu agaçante parfois parce que c'est assez enfantin. C'est oui, beaucoup dans la caricature, beaucoup de couleurs. Après donc ça fait rire, ça fait pleurer, donc c'est ce que je dis, c'est bon public, mais on s'attend à la fin, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais par ailleurs c'est très 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 agréable.
Oui, je suis d'accord, c'est une bonne comédie, et je pense que c'est là que le rapprochement se fait avec Bienvenue chez les Ch'tis, sur l'idée d'un choc de culture, sur un film qui plaît à tout le monde et qui de fait fait un grand succès en Allemagne. Après, oui, la forme du récit même, donc cette idée de raconter l'histoire à un enfant est extrêmement problématique, parce que du coup, le film est très très didactique, et le gros problème, c'est que en voulant traiter cette question de l'immigration turque en Allemagne, qui est une question qui est quand même prégnante, enfin, on sait que après a priori, l'Allemagne a plutôt réussi l'intégration de ses communautés immigrées, notamment de la communauté turque. L'Allemagne est souvent citée comme un modèle. Mais le problème, c'est qu'en voulant justement montrer
que les Turcs à la fois sont une communauté intégrée en Allemagne en même temps, parce que les grands-parents, au tout début du film, les grands-parents sont naturalisés, mais qu'en même temps, elle a une culture propre, et bien la réalisatrice se trouve obligée d'opposer la culture allemande et la culture turque, et donc répond aux clichés qu'on a sur les Turcs par des clichés sur les Allemands. À savoir que les Allemands sont chrétiens et donc adorent un homme crucifié et qu'ils sont cannibales parce qu'ils mangent sa chair et son sang chaque semaine à l'église, que forcément les Allemands sont des impurs parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et je trouve ça très embêtant parce que même quand c'est fait sur le ton de la comédie, c'est une question qui est tellement sensible aujourd'hui que je pense qu'il faut être beaucoup plus doué que cette réalisatrice-là pour se permettre d'en rire. Après, le film n'est pas complètement désagréable et c'est vrai que j'ai passé un très bon moment et qu'il y a des trucs, enfin il y a des éléments qui m'ont beaucoup plu, notamment. Je trouve que la façon qu'elle a de représenter cette famille immigrée et sa culture passe beaucoup par la nourriture. Il y a quelques éléments de ce film qui m'ont fait penser un peu à la façon qu'a Abdelatif Kechiche de parler de l'immigration maghrébine en France. Notamment dans La Graine et le Mulet, où on avait des longues, très longues scènes de repas autour du fameux couscous au mulet et où on avait un rapport à la nourriture qui était très 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 important. Et là, on a la même chose. On a deux scènes de repas, une en Allemagne, une en Turquie, donc de la même famille. Et à chaque fois, la réalisatrice s'attache à filmer les aliments, mais à filmer aussi la façon dont ces aliments sont mangés. Il y a une très forte corporalité et une importance justement de cette famille à la fois allemande et turque qui même en Allemagne mange de la nourriture turque et il y a un très fort rapport à la nourriture et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Par ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec toi Agathe sur les acteurs que moi j'ai trouvé vraiment tous très bons et parce que alors que les personnages sont simplifiés à l'extrême pour correspondre au modèle de la comédie, ils apportent quelque chose en plus et ils parviennent à les faire véritablement exister et à faire qu'on croit en eux, qu'on ait l'impression qu'ils aient un passé et un futur, alors que justement, je trouve le film très ancré et trop ancré dans un certain présent. C'est-à-dire qu'on a plusieurs pistes, plusieurs histoires parallèles à l'histoire de la famille qui se développe, notamment une grossesse non désirée, et qui ne sont absolument pas approfondies. Et donc, on avait besoin de ces comédiens-là pour nous faire croire au personnage. Donc même si le film est vraiment est réussi dans son envie de faire rire et de se moquer de l'un et de l'autre partie, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de défauts et également, pour finir, il a le défaut de ne pas du tout réussir à être ancré dans une époque. Ce qui est extrêmement gênant aussi, c'est qu'on parle de deux époques complètement différentes, puisqu'on parle de la génération des grands-parents au moment où elle a immigré de la Turquie vers l'Allemagne et de la génération des petits-enfants qui donc, eux, vivent en Allemagne. Et les deux époques sont tout à fait pareilles. Et l'esthétique du film ne rend absolument pas compte d'un changement, d'une progression. Et là aussi, c'est quelque chose de problématique parce qu'on parle de l'immigration et l'intégration d'une communauté dans une autre et quand on a l'impression que la situation des deux dans l'esthétique du film est la même, je trouve que c'est gênant et c'est dû à des couleurs qui sont trop criardes et qui ne laissent pas transparaître une époque. C'est une esthétique qui est extrêmement, extrêmement travaillée, beaucoup trop travaillée et qui ne permet pas de laisser rentrer la vie, de laisser rentrer le passage du temps dans ce film pourtant drôle et émouvant. Alors, on va passer au coup de cœur, coup de gueule, puisque Camille va nous parler d'un film qui est sorti en salle il n'y a pas si longtemps, Je te promets, que tu as détesté.
J'ai détesté, c'est-à-dire que je me suis retrouvée confrontée à ce film un peu par hasard et j'ai eu l'impression d'être prise en otage.
Ne mens pas.
J'ai eu l'impression d'être prise en otage pendant... près de 2 heures, donc c'est un film de Michael Soxie, une comédie romantique qui est beaucoup plus romantique que comédie, parce que c'est assez à pleurer, et ça se veut réexplorer encore une fois la thématique de l'amnésie, de l'amour, donc Rachel McAdams, qui avait déjà fait des films Coucher de soleil, tout aussi palpitant, se réveille à l'hôpital après un accident et se retrouve dans une situation, enfin, c'est-à-dire qu'elle a perdu 5 ans et qu'elle ne reconnaît ni son mari ni celle qu'elle est devenue. Et vous imaginez la suite et vous imaginez que c'est absolument profond et psychologisant. Et voilà, j'ai adoré.
Rassure-nous, ça se termine bien.
Bah, à ton avis.
Ça se termine comment ? Agathe, tu voulais nous parler d'un court-métrage présenté avant les films au MK2.
Oui, donc ça fait maintenant à peu près 3 mois que les MK2 passent des courts-métrages avant certains de leurs films, notamment Almania en ce moment, et avant aussi Les Femmes du Bus 678, il y a un court-métrage. Coup de gueule pour celui que j'ai vu avant Almania, qui était vraiment sans intérêt, bon, très court pour le coup, heureusement, sur l'histoire d'un jeune homme qui se déguise en cow-boy chez lui, et ça n'allait pas plus loin que ça. Donc coup de gueule pour celui-là, mais l'initiative n'est pas mauvaise de passer des courts-métrages avant les films et de faire découvrir peut-être des nouveaux réalisateurs.
Pauline, coup de cœur pour un film de Pasolini.
Oui, donc là il y a une rétrospective Pasolini à la Filmothèque. Je ne sais pas si ça continue, c'est possible, mais en tout cas il y avait un petit bijou au milieu de tous les classiques qui est L'enquête sur la sexualité, et oui, de Pasolini, qui est en fait un documentaire, tout simplement, mais qui est en fait étonnant de charme et de, pas de naïveté, c'est paradoxal, mais en fait on voit le réalisateur, on a donc le visage à l'écran de Pasolini avec son micro qui va interroger en fait des gens de Naples, de Rome, qui va un peu sillonner l'Italie comme ça, et on va avoir toute cette ambiance qui n'est pas mise en scène, qui est absolument naturelle et spontanée, cette ambiance de place où on va avoir un attroupement de jeunes garçons ou de jeunes femmes. C'est assez clivé, hein, ça reste un peu on voit un peu le côté tradit conservateur, mais qui est quand même en train d'évoluer. Donc on a cette enquête sur la sexualité assez novatrice, j'imagine. Je sais plus de quand date le film, mais ça date un peu, même beaucoup. Et donc on a vraiment cette ambiance de place, de petits attroupements où chacun va spontanément dire ce qu'il ressent et qui va être gêné par les questions qui ne sont jamais très explicites, qui restent toujours très naïves, très larges en fait. Et également des réactions sur la loi sur le divorce. Donc voilà, ça remonte, il y a la loi sur le divorce qui vient de passer, et qu'est-ce que les gens en pensent. Et alors là, on a les réactions de tout. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a vraiment ce côté naturel en fait, qui fait qu'il y a vraiment des contrastes entre ce que les gens disent et leur apparence. On va avoir la petite mémé qui va avouer qu'elle s'éclate au lit, ou alors on va avoir la canon où le mec... Il y a des hommes très très beaux dans ce film, mais ce ne sont pas des acteurs, mais ils sont magnifiques, et qui vont dire que eux, c'est la catastrophe totale. Donc c'est jamais très explicite, c'est toujours dans une sorte de naïveté très fraîche comme ça, prise sur le vif, mais il y a quelque chose d'absolument authentique dans ce film et de génial si on veut un peu capter cette atmosphère italienne des années et des mois 70, je pense. Donc voilà, vraiment à voir, un petit bijou si vous pouvez vous le procurer, c'est super bien.
Et pour finir, coup de cœur pour Les Amants du Pont Neuf de Léos Carax, classique parmi les classiques, avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Donc un film qui prend des risques avec un sujet plus glauque que glauque, puisqu'il s'intéresse à deux SDF qui vivent sur le Pont Neuf, et sachant que la femme de ce couple est atteinte d'une grave maladie génétique qui va la rendre aveugle alors qu'elle est férue de peinture. Et pourtant, un film qui est d'une luminosité incroyable, il y a une grâce infinie qui est portée par les deux acteurs du film qui sont absolument lumineux, désarmants de sincérité, et qui portent à bout de bras cette romance parfois un peu teintée de saleté, de la saleté dans laquelle ils vivent, de la saleté de ces deux personnages qui sont rejetés par la société et qui vont par leur amour réussir à briser tous les codes et à briser cette solitude de la rue. Donc un film absolument magnifique, et notamment avec des fulgurances impressionnantes, notamment une scène de danse sur le Pont Neuf qui est absolument magnifique. Donc un film pour lequel les adjectifs manquent pour réussir à qualifier ce chef-d'œuvre de Léos Carax, dont on attend le prochain film Holy Motors, qui était à Cannes cette année. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir écouté et on vous dit probablement à la semaine prochaine sur les ondes de RSP. Bonne semaine.
Au revoir. Au revoir.